Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous.
Ça, faut que je parle
les... Non, c'est ça.
Genre la seconde, comme ça.
Du coup, est-ce que là, on fait le régular ou on fait le blockbuster en premier?
Ça, c'est le blockbuster, ça.
Blockbuster en premier.
Ce sera après avec Karim pour le
D'accord,
régular.
Ça marche. Ok, très bien. All right. Écoutez, on va commencer de suite par des petites news. Là, on est sur un épisode blockbuster, donc il fait chaud, on a la petite goutte de sueur là. il fait bon, on est en short. Déjà, je voulais juste commencer par le petit buzz du jour. Qu'est-ce que ça vous fait que l'annonce d'un nouveau Big Lebowski l'année prochaine, écrit et réalisé par John Turturro, donc The Big Lebowski, gros monument du ciné des années 80. Avec Jeff Bridges, un film que moi perso j'adore. Et ouais. C'est vrai que ça faisait un moment qu'il y avait des gens, les frères Coen disaient non, il n'y aura pas. Et là, c'est annoncé. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous en foutez? Voilà.
Fabien, je te laisse parler en premier. Je sais que tu es un gros fan des frères Coen.
Moi j'adore les frères Coen et j'adorais le Big Lebowski. Et en plus, dans le Big Lebowski, j'adore le personnage de Jesus parce que le spin-off sera sur le personnage de Jesus. On est d'accord,
ouais, c'est ça.
Pardon, ouais. Voilà, et après, alors moi j'étais hyper content quand j'ai vu les titres qui annonçaient ça. Après, en lisant un peu plus profondément les articles qui parlaient de ça, j'ai quand même l'impression que ça sera assez éloigné
de l'esprit du.
Enfin, là, le principe c'est plus une. C'est l'histoire c'est une. Jesus qui rencontre une femme qui a pas d'orgasme et qui se propose de l'aider pour en découvrir. Non, mais c'est ça l'histoire apparemment.
Apparemment.
Bon, donc ça me paraît quand même assez éloigné du délire du Big Lebowski, d'un espèce de mec qui se promène en robe de chambre. Dans les magasins, mais si, moi, juste ne serait-ce que pour eux. En fait, moi j'avais adoré Big Lebowski juste pour les personnages, en fait. C'est pour ça que c'était un peu une grosse claque pour moi quand je l'avais vu la première fois, parce que même dans ce qu'on fait par rapport à l'humour, je m'étais dit, mais c'est fou parce que il suffit d'avoir un personnage bien écrit et tu peux raconter n'importe quoi ou juste rien et ça sera génial juste parce que le personnage est parfait, quoi. Et du coup, juste pense pour retrouver le personnage de John Turturro, je serais content quand même et je serais assez curieux d'y aller, ouais.
Les choses que j'aime bien, j'ai toujours envie de voir un 2, tu vois. après, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de films, et dont The Big Lebowski, où tu sais, t'as l'impression, laissons les trucs maintenant, là, pas besoin d'en rajouter, on risque de... Il y a toujours la peur, tu sais, de tout simplement salir, en fait, ce que tu fais.
C'est légitime en plus comme peur, parce que c'est souvent...
Oui,
que
parce que là, c'est clairement devenu un film culte pour énormément. Genre, il y a vraiment des gens qui cosplay en tant que Lebowski, donc si tu veux, on a un niveau de culte assez grand. Le fait que ce soit un spin-off sur un personnage, peut-être que ça décompresse un petit peu toute cette sacralisation. Et moi, par contre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Turturro et les frères Coen. C'est-à-dire, les frères Coen ont dit, on a doublé le truc, ils ont dit, c'est bon, tu peux prendre le personnage.
C'est exactement ce qui s'est passé, en fait, parce que les frères Coen ne voulaient pas. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, Turturro, il est super pote avec les frères Coen et il a leur bénédiction pour le faire. C'est-à-dire qu'il dit, il a présenté le truc, il a dit, voilà, moi, je veux faire un spin-off slash remake de... apparemment, c'est un film qui s'appelle Les Valseuses de Bertrand Blier, tu sais, ce film dans les années 70 où c'est des gars qui sont un peu les cons, qui volent des trucs,
Patrick
et ça finit Devers, un peu en...
Depardieu.
Et donc lui, il dit que l'esprit du truc, c'est vraiment... Et c'est ce que j'aime bien, parce que moi, j'en ai un peu marre des suites pour faire des suites qui servent à rien. Et là, tu sais, le côté spin-off, donc prendre l'essence de quelque chose qui existe déjà pour aller peut-être revoir dans une autre dynamique. Donc tu vois, donc là il dit qu'en gros ce serait une comédie qui aurait pour but de montrer à quel point l'homme est con en fait. L'homme est con et n'arrive pas à comprendre les femmes. Et donc du coup, ouais, je me dis ça avec l'esprit un petit peu de Big Lebowski, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, quelque chose qui n'a rien à voir et qui est et puis voilà, Turturro à mon avis ça reste quand même une valeur assez sûre en termes d'humour, d'écriture, de voilà. Donc moi je suis assez content et surtout parce que on nous propose voilà une j'aime bien le côté spin-off avec un projet derrière, tu vois, parce que c'est vraiment, c'est pas des suites pour faire des suites. Donc oui, c'est pour ça que j'aime bien.
Oui, c'est ça, c'est plus rassurant d'avoir un, juste reprendre un personnage pour un côté complètement autre chose que de dire on va faire un 2 et c'est...
Oui, du coup on est obligé de reprendre Jeff Bridges, on va ouais, se voilà, dire oh, attends, qu'est-ce qu'on peut lui inventer d'autre.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et au final, ça, on se retrouve souvent, enfin, quand il y a trop de questions à se poser pour faire une suite, au final tu as une suite qui est juste une redite du 1.
Oui, c'est
et
ça.
Qui est et qui est juste mal faite ou moins bien faite. Et surtout, qui est plus du tout surprenante, parce que tu vois, il y a toujours l'effet de surprise du premier, etc. Alors que là, tu dis, bon, écoute, on va faire le Big Lebowski-verse.
C'est
mon mot maintenant, j'ai envie de rajouter verse partout.
Non, en plus, mais c'est ça, tu vois, genre, si les Bronzés 3 avaient fait un spin-off juste sur Gérard Jugnot, bah c'était gagné, je pense.
En vrai, pour le coup, si les Bronzés 3 c'était que un des personnages.
Après, c'est un bon segue pour dire qu'il y a un bon casting parce qu'apparemment il y a Audrey Tautou dans le film.
Oui,
il y a Audrey Tautou, il y a John Hamm, il y a deux trois bons petits noms là, donc je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc ça, ce sera pour 2020 du coup. Est-ce que vous avez eu le temps de checker les petits trailers de la semaine qui sont très en lien avec du gros budget? Donc il y avait La Chute du Président, il y avait Terminator. Donc on va parler très rapidement de La Chute du Président. Moi, ça fait une semaine que je vois ce trailer au cinéma, donc que je vois Gérard Butler se faire attraquer par des drones avec Morgan Freeman qui pêche la carpe un petit peu. Est-ce que ça vous donne envie? Qu'est-ce que vous en pensez?
En ce moment, c'est la grosse fête des drones, j'ai l'impression, dans les films. Tu sais, des petits drones qui arrivent un peu de l'espace et tout. Écoute, on va pas se cacher que les deux premiers films, c'était quand même un peu moisi. Le premier, il me semble que le premier, c'était coolos, quoi. Tu
le
vois,
premier, j'avais bien aimé, moi.
Ouais,
le premier,
ça se laissait regarder. Le deuxième, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire, je sais pas,
Moi, je suis la caution non cinéphile de cette chronique. Donc,
non, mais après, tu sais, c'est pas de la très grande cinéphilie, là, qu'il faut avoir pour cette franchise. En gros, c'est Gérard Butler qui est un garde du corps du président et, il fait son travail, quoi. Mais il fait son travail contre des grands méchants qui sont prêts à détruire quasiment toute une ville à chaque fois. Écoute, ça c'est très classique, quoi. Là, la bande-annonce de ce troisième, c'est encore une fois, oh là là, je suis piégé par des terroristes qui veulent me faire passer moi-même pour le terroriste. Je vais devoir protéger le président, mais tout ceci à l'encontre du FBI. On a déjà vu ça mille fois. Juste petit sourire quand j'ai vu Nick Nolte, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Nick Nolte dans
Nick
un
Nolte
film.
Nick Nolte qui se cache dans les bois un petit peu. Il y a ce gimmick de le vieux forestier, tu sais.
Et oui. C'est toujours ces fameux ex-bérets verts qui vivent dans les bois. Tu sais.
Voilà.
Qu'on vient chercher quand les trucs sont moisis, alors qu'en fait, ils peuvent pas faire deux pas sans avoir un rhumatisme.
Et puis, un bon vieux couteau de chasse de béret vert va faire l'affaire contre des drones. Tu sais, c'est toujours cette espèce d'opposition technologie versus les bonnes vieilles recettes, tu vois.
Ah, on repart sur des bâtons de bois et des vieux pièges à la... Ben, en fait, c'est Predator, en fait. Tu vois, c'est tout le truc de Predator. C'est genre, je fais des pièges à base de boue contre la technologie venue de l'espace. Mais clairement, on va pas se mentir. Je pense que ça va être un film très, très tiède.
Ah ouais, voilà. voire presque froid. Hein. Presque froid. Donc ça, c'est pour fin août. Fin août, donc La Chute du Président. Ensuite, est-ce que vous avez vu le trailer de Terminator, pas 3, pas 4, pas 5, mais 6, Dark Fate, toujours avec Schwarzenegger hein, qui rempile pour un sixième opus. Voilà, il y a Sarah Connor un peu qui ressort en mode badass, en mode un peu ridé, un peu tiré, un peu trop maquillé, avec des gros guns, des gros bazookas. Écoute, alors moi, j'ai bien aimé ce trailer. Je sais pas, il me donne envie. Moi, j'ai toujours toujours une petite nostalgie de Terminator et en fanboy, je vais toujours aller voir ce qui se passe. C'est un peu les montagnes russes, hein, parce qu'un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Là, ça a l'air d'être, je sais pas si ça a l'air d'être bien ou pas bien. En tout cas, il y a de la bonne CGI, donc du gros spectacle, du gros blockbuster, du gros budget, des grosses explosions. Donc voilà, est-ce que vous avez envie d'aller voir Terminator? Est-ce que vous êtes client?
Moi, je pense que moi, ça m'intéresse. Je suis pas très client de ce genre de film, mais de toute façon, d'après ce que tu décris, j'ai quand même l'impression que là où c'est positif, c'est que c'est genre de bande annonce, ça ment pas, tu vois. C'est-à-dire qu'on te dit il va y avoir des gros guns et des grosses explosions, bah tu vas, bon bah il y a des gros guns et des grosses explosions et c'est très bien. Donc je pense non. Si...
C'est pas comme les faux films intelligents. Ouais, non, ouais, c'est ça, voilà. Et au final, il y a que des explosions mais mal faites.
Ou les faux films drôles, on te met juste trois vannes dans la bande annonce et c'était les seuls trois. Là, au moins, tu te dis bon, il y aura des boom, tant mieux quoi. C'est très bien. Très bien, ça me va.
Je suis un peu comme toi, Jean-Yves, dans le sens où là, Terminator, enfin, ce qui est toujours... Moi, je m'attendais vraiment depuis maintenant plus de 5 ans à un vrai total reboot, soit vous laissez tranquille la franchise, en fait. Et en fait, on continue toujours, on reprend les mêmes acteurs des anciens. Du coup, je sais plus où est-ce qu'on est exactement au niveau de la timeline. Tu sais, parce que tout est voyage dans le temps dans Terminator. Moi, quand je vois des choses que je ne vois pas dans d'autres films, c'est des bonus. C'est-à-dire, là, je vois des vieux. Je vois Linda Hamilton et Schwartzy qui a 70 ans. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien voir des vieux faire des trucs. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf de la série que j'adore, Halt and Catch Fire, Mackenzie quelque chose, je crois, elle s'appelle. C'est la blonde.
Ah oui, c'est elle, je me disais que je l'avais vue, et c'est là, en fait, c'est... Oui,
qui avait joué aussi dans Juniper, dans Black Mirror, bref. Donc, en vrai, ce sont de bons acteurs, écoute, je sais pas, moi, je suis un des rares à avoir dit que quand même Terminator Salvation, là, avec Christian Bale, c'était quand même un bon film.
Ah, j'adore ce film.
Terminator 3, c'était de la merde, Terminator 5, c'était re de la merde. Attends, mais non, il y a pas eu un Terminator. Ah non, c'était Terminator.
Après, il y a eu un sûr, parce que celui auquel tu fais référence, c'est à Christian Bale, que moi j'adore aussi, parce qu'il y avait, au niveau mise en scène, il y avait des trucs vraiment très cool. Le suivant, c'était de la merde, c'était avec Emilia Clarke.
Emilia Clarke, donc voilà, c'est celui-là. Voilà,
c'était Genesis, c'était moi. Donc là, on est, normalement, si on suit la logique, ça devrait être bien.
C'est 1 sur 2. Enfin, voilà. Les deux premiers sont excellents, et ensuite, on rentre dans le 1 sur 2.
Mais c'est marrant ce que tu dis de, parce que moi là où on peut avoir le débat sur Terminator, c'est la question des effets spéciaux, parce que là on atteint un niveau d'effets spéciaux qui est assez haut, et là il me semble que dans la bande annonce c'est très beau, en fait, c'est à dire que quand tu vois la 3D c'est vraiment c'est quasiment photoréaliste. Et l'autre truc qui alimente cette thématique des vieux acteurs, c'est que il y a certainement du rajeunissement, du lissage d'acteurs, tu sais. Est-ce que en plus du maquillage, on a l'impression que, enfin voilà, Schwarzenegger, il a 75 ans bien pesé, franchement. Moins 70. Dans la bande annonce, on dirait qu'il en a 60, quoi, tu vois. Donc je me dis, est-ce qu'on va pas avoir, grâce à cette mode de rajeunissement, de lissage d'acteurs, un gars qui va pouvoir jouer jusqu'à 85 ans, tu vois?
Bah là, déjà, même Samuel Jackson, ils en profitent à chaque fois pour le rajeunir dans les Marvel, tu sais, parce qu'à chaque fois, ils font des flashbacks dans les années 90, dans les années 80, et du coup, ils te le font jouer. Et il lui enlève des rides petit à petit.
Ah ouais.
Et même dans Shaft, d'ailleurs. Ouais, peut-être que ce sera une nouvelle forme de cinéma. On aura moins peur des vieux.
Après, est-ce qu'on en a besoin de les rajeunir? Parce que, comme ce que tu disais juste avant, c'est limite un plaisir de voir. Toi, t'es content parce que c'est des vieux que t'as vu. Genre, enfin, t'as dû adorer Expendables ou
tous les
vieux du cinéma d'action qu'on a mis ensemble. Il y a ce charme un peu, tu vois, de les vieux qui se boxent, quoi.
Mais après, de toute façon, le maquillage, ça, on pourra jamais l'enlever. C'est-à-dire que vraiment, personne ne va nous donner un héros d'action et romantique qui a de l'acné, quoi. Quoi qu'il arrive. Alors que même si ça existe réalité, c'est...
Kick-Ass, quoi. Même Kick-Ass, il avait pas d'acné. Même lui,
Ouais, c'est clair. Même les ados, ils ont la peau magnifique. Ouais, voilà, c'est tout ce que je sais plus ce que c'était la question.
Alright, ben on va enchaîner sur le mini débat discu du jour. Voilà, c'est l'été, donc qui dit été dit blockbuster, mais dit aussi magazine. On aime bien aller sur la plage, avoir ce petit magazine avec du sable, de la crème solaire et tout. Et du coup, ça colle bien à... Moi, j'avais envie vraiment de parler des magazines papier, parce que voilà... C'est un épisode nostalgique, hein, donc on va parler de vidéoclub, on va parler de papier, etc. Est-ce que, voilà, moi je me demande, est-ce que les gens achètent encore des magazines de cinéma papier ? Voilà. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous, de temps en temps, vous achetez un Première, un Studio Ciné Live ou autre ? Ou est-ce que vous êtes plutôt... Est-ce que vous vous êtes déplacé ou vous êtes sur que des supports numériques ? Est-ce que vous êtes sur des magazines de ciné online, etc. ? Donc voilà, donc je vous pose la question, est-ce que vous achetez des magazines de cinéma en papier ?
Alors, c'est marrant parce que ta question elle-même, elle est empreinte d'une nostalgie déconnectée à la réalité. Et je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, quand on a parlé de cet épisode et de ce dont on allait parler dans cet épisode et donc de magazine, je me suis dit, tiens, bon, ok, question intéressante, je vais m'acheter un magazine. Premier truc que j'ai regardé sur le net, du coup, quels étaient les derniers numéros. Et moi, j'avais l'habitude d'acheter à l'époque le Studio Ciné Live. Donc, j'ai regardé Studio Ciné Live. Et sur la page Wikipédia, je vois qu'il ne sort plus depuis février 2018. Donc, si tu veux... On est dans le même truc. On s'était dit que c'était évident qu'il y en avait toujours un tous les mois. Et ben non. Et donc voilà. Là déjà, je me suis pris une espèce de mini coup de vieux aussi. Dans le sens où genre, j'étais même pas au courant que c'était fini. Et après j'en ai acheté un. J'ai acheté le Ciné Fantastique pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. La preuve en est, c'est que j'en achète très rarement. Ça va être vraiment en vacances, en fait. Il y a vraiment ce côté, je sais que je dois prendre un avion pendant longtemps ou un train pendant longtemps, je dois attendre à la gare de machin, il y a un relais qui me fait les yeux doux avec un petit Kinder Bueno, un petit Première, ça passe crème, tu vois. Mais c'est vrai que le papier a beaucoup beaucoup souffert de toutes ces news en direct de IMDb, Allociné, tu sais, voilà, parce que ton fil d'actualité aussi, quels que soient les réseaux sociaux, tu peux le curate, tu vois. C'est quoi le mot en français, putain, le gars?
Le curate.
Comment dire, tu sais, comme un galeriste dans une galerie d'art qui choisit. Enfin bref, tu le choisis quoi.
Tu personnalises quoi,
tu le sélectionnes.
Tu l'adaptes, oui.
Oui, voilà. Et c'est vrai que moi, que ce soit sur Facebook, Twitter, même Instagram, en fait, je vois pas mal de news ciné. Et donc, je me dis, je prends toutes mes. J'aspire toutes mes connaissances et mes news ciné de là. Et donc, ouais, ça. Mais. Ça a tendance à me faire aussi moins lire de longs articles sur le cinéma.
Oui, c'est ça, parce que je pense que t'as pas le même contenu exactement. Enfin, sauf si t'as les abonnements numériques, parce que c'est un peu ça la question aussi. Tu peux avoir des abonnements payants juste sur des versions numériques. Moi, pour répondre à la question, enfin, sauf si tu avais terminé, Reski.
Ouais.
la question. De toute façon, j'ai un peu le même avis qu'Reski, mais c'est. Après, je pense pas, moi, que le papier va mourir de tout ce qui est numérique. Non, mais que ce soit après, même, on peut généraliser...
La Terre va mourir.
On peut généraliser... Non, mais on peut généraliser à la presse en général, mais même sur la presse cinéma. Après, alors moi, si, je sais, quand j'étais plus jeune, j'achetais Première assez souvent. Parce qu'un argument de choc, c'était le poster au milieu du magazine.
Ah oui, c'était trop bien. Oui,
c'est vrai. Et j'avais plein de posters, même des films que j'avais jamais vus, parce que je trouvais que les affiches étaient stylées et tout ça. Mais aujourd'hui, vu que j'accroche plus de posters dans ma chambre, bon, bah, plus d'arguments. Mais non, pareil, mais en fait, c'est exactement comme un Reski, c'est-à-dire que, il y a quand même des fois, quand t'es en vacances et tout, t'as cette sensation, c'est pas la même sensation de lire un magazine papier ou de le lire en numérique. Et puis pour le coup, par rapport à ce que tu disais sur. Justement, c'est peut-être le problème de tout ce qui est le fait de pouvoir personnaliser complètement toutes ces timelines, c'est qu'en fait, moi, des fois, je me rends compte que c'est agréable de lire quelque chose. Auquel je me serais pas du tout intéressé si j'avais en numérique. Tu vois, en numérique, j'aurais vu un titre, j'aurais pas spécialement lu, je me serais dit, ok, je passe à autre chose. Alors que quand c'est dans un magazine papier, tu l'as sous les yeux. Quand t'es dans un long trajet en avion ou quoi, tu lis tout ce que t'as sous les yeux parce que t'as que ça à faire.
Oui, c'est vrai que tu finis par être dans ta bulle, en fait.
Ouais, et c'est cool, des fois, de pas sélectionner, de lire un truc auquel tu pensais pas t'intéresser initialement. Et en fait, quand tu lis, tu dis, tiens, j'ai bien fait de juste me forcer à mettre mes yeux dessus parce que c'était bien.
Cela dit, ce qu'on peut en tirer de ça, c'est que on en garde quand même un certain plaisir, parce que si on associe ça aux vacances, et si on veut le lire en vacances, mais pas dans le reste de ta vie normale, du coup, j'ai l'impression on a l'impression d'être plus pressé peut-être, et de pas avoir le temps. Okay. Si on se réserve ça pour les vacances, c'est que quand même il y a un côté plaisir, je prends du temps pour moi, etc.
Ouais, peut-être. Bon, après, je sais pas, parce que dans ma tête, quand tu parles de plage et de vacances, je me dis juste que C'est plus facile d'emmener un magazine dans le sable qu'un portable.
Oui, bien sûr.
mais après, je sais pas. Moi, j'aime pas. Enfin, ça me fait, j'aime pas trop l'argument. Enfin, ça me fait peur l'argument du on n'a pas le temps parce que franchement, on a tout le temps le temps. Faut arrêter les conneries.
Mais je suis d'accord, mais c'est une explication de pourquoi on le fait pas.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord, mais non, je pense. Oui, comme tu dis, mais c'est. Bah, après, oui, c'est le, quand t'as l'occasion d'être dans un. Oui, voilà, c'est ça. C'est au relais. C'est vrai que j'achète plus souvent des magazines au relais de la gare que ailleurs.
Et toi, du coup, Jean-Yves,
c'est marrant celui que t'as parce acheté... que j'étais en train de. Alors moi, j'ai acheté. Alors moi, mon, je vais faire la promo de mon magazine ciné préféré qui s'appelle Cinéma Teaser.
Ouais.
Qui est très bien parce que sa force est qu'il est très bien écrit, tu vois. Et je me suis posé la question. Je me suis dit parce que moi j'aime bien. Je te rejoins sur le côté la plage, le voyage, j'ai le magazine dans mon sac qui avec le temps va finir par être un peu corné, mais j'aime bien le ressortir pour feuilleter les articles et tout. Et est-ce que finalement la survie du papier ça dépend pas de ce que ça peut offrir encore, c'est-à-dire que est-ce que ben voilà, tu me proposes de me déplacer dans un lieu physique pour acheter un truc. Est-ce que ça va forcément être beaucoup mieux que d'aller juste scroller sur mon téléphone sur Allociné? Et à mon avis, la réponse est oui, si tu recharges du contenu. Parce que, en fait, finalement, le fait d'acheter des magazines et de les lire, on se rend compte qu'à quel point les news, smartphones, etc., ça manque cruellement de substance. Et typiquement, tu vois, là ce matin, je regardais des trucs sur Shaft et je clique sur un article, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'était écran large. Et en fait, tu cliques, donc y a la promesse est énorme, on te dit super banalise, machin, tu cliques. Et en fait, à l'arrivée, tu scrolls, il y a trois
paragraphes.
Il y a une pub, il y a une pub qui prend tout l'écran, toutes les trois lignes d'article, tu sais. Ouais, et il n'y a pas grand-chose à l'arrivée dans l'article. Alors que dans les magazines, je trouve que voilà, tu peux te plonger dans un truc, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus substantiel, quoi. Et voilà, et du coup, c'est marrant, je me rappelais, tu parlais de nostalgie. Est-ce qu'il n'y avait pas, genre, quand nous on l'achetait il y a 10-15 ans, est-ce qu'il n'y avait pas des DVD avec des bandes annonces? Ça te dit rien,
oula,
ça?
Oula, c'était il y a longtemps, ça, mais oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Je crois. Ouais.
Parce que j'y ai pensé quand t'as parlé du poster, et moi j'ai le souvenir de Ciné Live où tu sais, t'avais au milieu le DVD, tu pouvais regarder la bande annonce du prochain Bruckheimer en 5 points. Donc ça, c'était cool. Et juste pour donner une idée, pour continuer la promo de Cinéma Teaser, j'ai vu récemment un film qui m'a beaucoup plu qui s'appelle Le Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin. Mm-hmm. Et en fait, pour vraiment montrer à quel point c'est bien écrit, quand je lis ça, je me dis c'est exactement ça. En trois lignes, le gars qui écrit, il parle de l'univers de Quentin Dupieux. Donc il dit que Quentin Dupieux, c'est généralement des univers laiteux, bordés de palmiers et habités de gens médiocres. Quelque part entre les teintes des années 70, le glauque des années 80 avec la modernité d'aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire que c'est assez bon, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien le. Moi, j'aime bien quand c'est riche avec du joli mot, tu vois. Et
oui,
vraiment,
c'est lyrique. Teaser,
c'est très bien écrit. Et l'autre truc que je trouve cool, et là, c'est complètement un parti pris, c'est qu'ils font les critiques des films Netflix. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les releases Netflix sont des sorties ciné. Et donc, tu vas avoir des critiques des films Netflix en même temps. Donc, ça, c'est cool. De belles photos. La photo, c'est un élément important. Y a aussi les interviews. Tu vois, je trouve que quand il y a des interviews sur des magazines, c'est beaucoup plus agréable et fourni que vite fait, tu vas écouter l'interview de promo sur YouTube dure 30 secondes. Clair. Donc ça, c'est encore pour moi avantage magazine. J'ai acheté Première aussi, Première qui est assez cool, qui est beaucoup plus mainstream, beaucoup plus pop, mais très agréable. Et tu vois, par exemple, là, il y a un gros dossier sur le nouveau Tarantino. Et il y a un truc que je trouvais vraiment très original. Ils font par exemple, voilà, ils font un top 20 des meilleurs personnages de Tarantino. Donc, tu vois, sur 3-4 pages, tu vas pouvoir redécouvrir, te dire, ah ouais, effectivement, dans l'univers Tarantino, il y a quand même des personnages de malades. Et tu vois, tu as un petit. Voilà, c'est des trucs que le magazine peut proposer et qui n'est pas, à mon avis, faisable sur Internet. Et tu as raison de dire que oui, Allociné a clairement tué le game, puisque Allociné, ils sont pionniers dans le truc de compiler plein de choses qui existent déjà, tu sais. Donc, peut-être que. T'as cliqué. Je pense que ce qui a tué vraiment ce qui a fait mal au magazine, c'est, tu sais, ce truc des critiques presse où tu cliques sur un film et t'as vite fait genre 15 critiques. Donc tu sais ce que Première a dit, tu sais ce que Studio a dit, etc. Et ça, à mon avis, c'est sûr que
les agrégateurs.
Voilà, Donc voilà, dans la logique de Twitter, pas plus de 240 caractères. Là, voilà, t'as vraiment des petites trois lignes. Hop, voilà, j'ai consommé ma critique, je l'ai vue, donc j'ai peut-être pas forcément besoin d'aller acheter un magazine. Voilà.
Ouais, mais en fait, oui, c'est l'ennemi. Après, c'est comme pour la presse en général, c'est notre cerveau et notre recherche de petites catchphrases, de petites dopamines vite fait, ouais, tu vois. Ça, parce que en vrai, moi, quand je recherche vraiment quelque chose d'écrit ou d'analytique sur un film, je me rends compte que je finis par lire beaucoup plus, alors pas sur des forums, mais les critiques de spectateurs, ouais, qui sont parfois longues. Alors ça dépend, parfois c'est sur IMDb, parfois c'est sur d'autres sites, rarement Allociné, mais c'est vrai que moi j'aime bien.
Les gens qui développent bien aussi.
Ouais, parce que j'aime bien aller sur IMDb et voir tout un truc, ou alors je tape ça sur Google vraiment, et je vois le blog d'un mec lambda.
Ouais, c'est ça, je veux dire, sur des blogs.
Et je me dis, et c'est là que je peux lire vraiment deux pages sur ce que la personne pense, parce que je suis à la recherche de ce que je n'ai plus sur Allociné, comme tu le dis. Donc c'est vrai que. Ben c'est vrai que oui, malheureusement, on a perdu ça, et peut-être que oui, je dois probablement lire moins de longues analyses, parce que ça m'est moins offert, en fait, tout simplement.
Non, mais t'as raison. Et puis est-ce que aussi il y a les nouveaux médiums, et puis voilà, est-ce que quelque part la flambée du podcast fin de séance ne vient pas mettre le coup de grâce au magazine, je sais pas, parce que tu sais, quand tu parlais des forums, et je pense il y a une énorme offre qui s'est développée sur YouTube aussi, ces gars qui ont des chaînes YouTube et qui font, oui, des critiques de films, et est-ce que sur le segment 15-25 ans, est-ce que c'est pas eux qui ont pris le game, tu vois.
Après ça La qualité n'est pas totale partout au rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, au final, tu finis par avoir... Enfin, j'ai pas envie de cracher sur... Mais je pense qu'il y a facilement 70% de ces critiques-là sur YouTube qui finissent par être juste les trois lignes, les trois fameuses lignes que tu lis, oui, mais étendues sur 15 minutes. Donc, j'ai pas trop envie de ça. Après, par ailleurs, il y a des gens qui sont excellents, comme nous, quoi. Non, mais qui vont vraiment analyser qui vont te mettre des petits extraits, t'expliquer les endroits de mise en scène intéressantes, etc. Ouais. Donc, mais oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que là, on est sur les nouvelles technologies. créent aussi des nouvelles formes de critiques. Mais tu vois, on en revient à... Ce ne sont pas les magazines qui le font. Ouais. Et ça, peut-être, c'est peut-être une erreur. C'est-à-dire que, tu vois, les gens, ils vont préférer des... Binge va préférer faire une putain de vidéo de une minute avec des encarts toutes les 4 secondes pour une interview avec Christopher Nolan. Alors que Christopher Nolan, t'as envie de lui dire, non, mais assieds-toi avec lui pendant 2 heures et fais-nous plaisir, tu vois.
Après donc, ce genre de chronique sur YouTube, c'est parce qu'il y a des questions pratiques. Genre, la vidéo apporte tellement... Moi, je vois, je sais pas, par exemple... le plus connu, genre Fossoyeur de films, ouais, il va proposer des analyses géniales et des trucs hyper poussés que tu pourras pas faire avec du papier et qui en plus, enfin c'est juste, c'est l'évolution des je sais pas, de la manière de consommer les médias qui fait que tu regardes Fossoyeur de films, tu sais que tu vas te marrer et qu'en même temps ça sera intéressant, que tu vas apprendre des trucs. Mais j'ai appris des trucs sur le cinéma que je connaissais pas du tout parce qu'il a l'air hyper calé, et pour le coup il pousse ça suffisamment loin pour que ça soit aussi de bonne qualité qu'un long article de 3 pages, quoi. Je sais pas, moi j'ai vu des analyses de films que j'avais jamais vu et c'est tellement plus pratique quand t'as la vidéo sur papier.
Oui, la
ça
vidéo,
rien
le
tout,
son,
quoi.
Quand tu, bah, quand tu parles de cinéma, c'est sûr que...
C'est logique. Ouais. Du coup, c'est juste, je pense pas que... C'est pas quelque chose qu'il faut déplorer, c'est juste l'évolution de la consommation de la culture qui fait que la vidéo apporte des choses plus... Enfin, apporte un contenu même parfois plus riche, ouais, que le papier, quoi. C'est pas vrai. Tout le temps.
Et puis, mine de rien, c'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais c'est vrai que les podcasts et puis les discussions, en fait, parce que tu sais, parfois, on n'est pas du tout d'accord, on confronte nos idées et on s'émule même à aller trouver des analyses
mais oui,
plus,
c'est ça,
plus poussées. Donc oui, c'est peut-être plus intéressant, ouais.
Et puis on est beaucoup plus, je veux dire, versatile, quoi. Est-ce que clairement tu peux conduire ta voiture en lisant première? Non, je crois pas. Alors que est-ce que tu peux écouter fin de séance? Oui, tu peux. Ouais. Voilà.
On fait notre propre
auto-promo pendant toute la chronique. Quoi.
C'est un peu ce que tu disais du, je sais plus où tu disais ça l'autre jour, mais le magazine, c'est une activité à part entière. Alors que t'as le côté multitask des nouveaux médiums où tu peux écouter un podcast en faisant, ouais, autre chose, tu peux regarder une vidéo de loin en fond, etc. Et est-ce que c'est pas ça aussi la clé de ce changement, cette espèce d'envie de vouloir faire un peu tout en même temps, tu vois, et de prendre vraiment l'essence, quoi.
Oui. Après, il y a du bon et du mauvais dans ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut absolument optimiser notre vie. Tu sais, il faut absolument qu'on fasse du ménage et que derrière, on écoute un podcast sur les fourmis, tu vois. mais oui, je pense que oui, dans la vie moderne, il y a quand même des facilités. Donc, autant faire ça. Mais en ayant du contenu quand même dedans. Quoi. Pas forcément la facilité du scrolling sur Binge.
Les pires trucs, c'est les... Comment ils appellent ça, les Fast and Curious, je sais pas quoi. Mais c'est Satan, quoi. C'est l'anti-news par excellence, quoi.
Je voyais le Fast and Curious sur Stranger Things saison 3. Et c'était triste. Parce que tu voyais que les acteurs, ils étaient chiants, en fait. Tu sais, alors que c'est les gosses acteurs, ils ont l'air trop sympas, trop cool. T'as envie d'être ami avec des gosses de 12 ans quand tu regardes la série. Et après, tu les vois en interview, et t'es là, tu fais putain, mais en fait, vous êtes des gens chiants, quoi. Vous avez rien à dire de spécial, vous êtes pas drôle.
Bon, du coup, pour terminer ce petit débat, est-ce que, en un mot, est-ce que vous allez continuer à acheter des magazines ou c'était juste comme ça pour alimenter le débat?
Moi, ça a toujours été. J'ai toujours acheté de manière occasionnelle et je pense que je vais continuer. Je pense que ma consommation de magazines ne changera pas avec les évolutions d'Internet ou de la vidéo. Je vais continuer.
Ouais, moi, je continue toujours pour les vacances et les longs trajets.
All right. Et ben moi aussi, ce sera toujours cinématiseur et de temps en temps un petit première. Donc, on va partir sur le sujet du jour. Hein. Voilà, on reste sur la chaleur, on reste sur l'été. on va parler des blockbusters de l'été. Voilà, on va de suite se mettre d'accord sur une définition. On devait avoir un huissier de justice qui vienne pour chapeauter un petit peu. On a un avocat, c'est pas mal. Pour vraiment cadrer le débat, parce qu'avec Areski, moi, je me méfie beaucoup le film qui va faire rentrer dans la faille. Qualité de voix, alors que oui, c'était sorti en octobre, mais oui.
Ah mince, j'ai pensé à ce genre de questions quand j'ai préparé ma liste.
Donc, pour que ce soit plus simple, on va déterminer dès maintenant qu'est-ce que c'est qu'un blockbuster de l'été, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le classement, ou est-ce qu'on va laisser passer une ou deux fois des petites des petits tweaks. Donc voilà, Areski, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu définirais un blockbuster estival?
Ok, donc déjà, on va définir blockbuster. Alors, blockbuster, pour moi, et je pense que c'est la définition, c'était un film à gros budget, avec possiblement, et en général souvent, une grosse campagne publicitaire marketing avant. D'accord ? Ensuite, alors, moi je serais capable de dire, alors pas forcément non plus énorme budget, mais aussi, tu sais, avec un gros line-up de stars, dans le sens où, tu sais, c'est pas. Enfin, voilà. Parce que peut-être ils ont accepté de faire le film pour pas grand-chose, mais, mais ils ont pris. Voilà. Ensuite, estival, oui, bah, il y a la catégorie, on va dire, comme tu dis d'habitude, avec beaucoup de gasoline, beaucoup de kérosène, hein, qu'on a envie de faire flamber. Mais pas forcément. C'est-à-dire, en gros, on veut faire se réunir les gens pendant leurs vacances, en fait, marquer leur année par un truc qui... Alors, se prend pas forcément au sérieux, mais qui veut marquer l'année, en fait. Je pense que c'est ça, les producteurs, ils se disent ça quand ils sortent le film.
Bah, c'est moi, j'aurais rajouté genre ultra populaire, quoi, du coup. Le but, c'est ils visent à plaire, à ramener un maximum de monde possible. Absolument. Pas spécialement une tranche de la population, quoi. Le but, c'est d'aller ramasser le plus large possible pour rembourser le budget, quoi.
Exactement. Un truc à rajouter sur les définitions, Jean-Yves?
Moi, j'irai bien dans le sens du feu, parce que moi, quand je regarde mon top 10, il y a un ratio de scènes enflammées assez folle, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup.
J'ai vraiment essayé de pas en mettre.
Voilà, mon top 10, il sent l'essence, tu vois. Clairement. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas cette dimension de. Le divertissement, quoi. C'est-à-dire qu'un blockbuster, ça reste un gros spectacle divertissant, minimum 78 millions de dollars de budget, avec, comme tu l'as dit, beaucoup de stars. Moi, je retiens le côté divertissant. On y va comme on va un petit peu au manège, quoi. Tu vois, l'été, on rentre dans une fête foraine, on va en prendre plein la tête, tu vois, et puis on ressort de là tout retourné, quoi. Gros budget.
Puis après, je dirais de fin mai à début septembre.
Ouais.
Oh là là.
Alors, ouais, j'ai autorisé. Alors, moi, déjà sortie initiale, c'est-à-dire dans le pays initial, parce qu'en fait, dès qu'on remonte, on va dire dans les années 90, il y a pas mal de films qui sont sortis dans les, aux États-Unis, qui sont faits donc pour des blockbusters d'été, mais qui, à l'époque, chez nous, il y avait toujours les 5-6 mois de retard, et qui finissaient par sortir en octobre. Et je pense notamment, genre, Independence Day. C'est le 4 juillet, Independence Day, et c'était sorti le 3 juillet aux États-Unis, et chez nous, c'est sorti en octobre, donc aucun rapport, quoi. Mais moi, celui-là, je le mettrais quand même. C'est-à-dire que là, encore une fois, moi, j'ai envie de dire, c'est l'intention primaire du distributeur-producteur.
C'est comme, voilà. Comme un film de Noël, quoi.
Même si et, ça puis, sort, et puis, on a vraiment assisté à ce glissement. Alors, autant, il y avait vraiment cette espèce de noyau dur estival. Et puis, petit à petit, tu sais, on l'a vu avec les Seigneurs des Anneaux, avec les Star Wars, avec les James Bond, avec ces espèces de gros films qui vraiment sortaient à la période de Noël. Tu sais, ils essayaient vraiment d'étaler un espèce de truc sur l'année. Donc, on voit ça aussi. On voit aussi une autre catégorie, typiquement les Star Wars qui sortent chaque année à Noël, quoi. Ouais. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi pas sortir Star Wars en été,
mais ça.
Mais je pense qu'il y a aussi la catégorie film, enfin blockbuster de Noël. Je pense que tu pourrais faire la même chronique en décembre, quoi.
Ouais, voilà.
J'ai vu genre tous les Harry Potter, ils sont tous non, mais sortis à Noël.
Harry Potter, je pense qu'en fait, depuis quoi, depuis 7-10 ans, il y a eu ce premier shift là. Donc on est passé à les gars, on va faire des blockbusters tous les 6 mois parce qu'ils ont envie d'engranger dans les majors hollywoodiennes. Et aussi deuxième shift qui s'est opéré il y a à peu près, je pense, 2-3 ans, c'est avec tout ce qui est Marvel, tout ce qui est grosse franchise de super-héros, des choses comme ça, où maintenant, ben j'avoue, il y a plus de saison, ok?
Il n'y a plus de saison.
Et les mamies, elles ont raison quand elles disent ça, parce que maintenant, ça sort tout le temps, partout, tu vois. Avengers Endgame, c'est sorti en mars. Il n'y a plus de lien vraiment avec ça. Je pense qu'ils se disent, construis-le et ils viendront. Donc, ils font des blockbusters toute l'année et ils s'en foutent, en fait.
Ok, alors, bah, très bien. J'ai
une question sur la définition. Est-ce qu'on peut être un blockbuster genre par accident? C'est-à-dire un film qu'on a mis quand même un budget assez conséquent, mais qui n'était pas destiné à marcher autant et qui fait un carton énorme. J'en ai pas en tête particulièrement, mais.
Si tu mets un budget conséquent.
Genre Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois.
Mais est-ce que. Non, c'est pas un si gros budget que ça.
Non, mais ça.
Alors que par exemple, Astérix, Mission Cléopâtre.
50 millions d'euros.
Ouais, c'est un gros budget, quoi.
Ouais. Dès le
début, c'est un blockbuster français,
c'est un blockbuster.
Clairement.
Oui, c'est sûr.
Ouais.
Ok, d'accord.
Oui, alors non, si tu parles, ce que tu parles, par exemple, ça pourrait être un film comme Drive, par exemple, qui est ce qu'on appelle un accident industriel, quoi. C'est-à-dire le film, il était censé être un petit film, et à l'arrivée, il marche super bien, quoi.
Là, oui, exactement.
Il y a un peu d'action, tout ça, mais est-ce qu'un film comme Drive est un blockbuster? Je crois pas, quoi.
Non,
ça reste
non,
un film d'auteur, tu vois. Alors après, la question qui est cool,
d'auteur pop, quoi. Mais...
J'y pensais avec Nolan, c'est est-ce que c'est possible un film d'auteur blockbuster, tu vois? C'est-à-dire.
Mais voilà, moi j'y pensais aussi par rapport
à Cohen. Je pense que Inception, c'est ça.
Oui, je pense aussi, oui.
Peut-être.
C'est-à-dire qu'Inception, il y a le côté, non, on veut que les gens viennent le voir cet été.
Oui.
On veut que. Voilà. Je dirais que ça fonctionne.
Ouais, mais je suis
d'accord. D'ailleurs, il est dans mon truc, je crois.
Ouais, c'était l'été, ça ?
Ouais, c'était l'été, Inception.
Ok, d'accord. Non, mais par exemple, oui, moi je pensais aux frères Cohen. Genre, est-ce que frères Cohen, on peut considérer qu'ils ont fait des blockbusters avec. J'en sais rien.
C'est une bonne question.
Moi, j'ai mis Oh Brother dans ma liste parce que j'adore et parce que ça m'arrangeait. Mais est-ce que c'est un blockbuster, tu vois?
Après, c'est intéressant parce que c'est pas non plus des films qui coûtent pas cher, les frères Cohen, tu vois.
Il y a des gros stars et c'est populaire, donc. Enfin, ça marche bien, je veux dire. Donc...
Oula, il faudra. Ça dépend de ton exemple. On verra et on discutera de ça sur le moment pour savoir si on te retire des points.
Exactement. Ouais, non, mais moi, laisse tomber. Mais alors, moi, je suis le pas cinéphile du truc, donc à mon avis, ma liste, ça va être n'importe quoi. Mais,
ok, c'est parti. Bah, on va démarrer tranquillement. On va partir du bas et remonter vers le haut. Donc, on va commencer numéro 10, Areski. Donc, à toi l'honneur. Quel est ton blockbuster, meilleur blockbuster de tous les temps, en 10e position?
Alors, bah, moi, j'ai mis Batman de Tim Burton. Voilà.
Voilà,
tout simplement.
Très bien.
Parce que c'est un des premiers films que j'avais vu au cinéma de toute ma vie, en fait. Le premier film que j'ai vu au cinéma de toute ma vie, c'était Batman le défi. Ouais. Et il passait aussi après le premier Batman de Tim Burton, et c'était à Alger. Et j'ai vu ça et Batman, blockbuster d'été. Je revoyais la bande annonce d'ailleurs, très drôle. C'était à l'époque où on avait les belles voix off là. On voyait un petit peu Michael Keaton et Kim Basinger. Et c'était vraiment, vraiment un gros truc d'enfance. Et clairement aussi la Warner avait quand même foutu le paquet dans ce film. Avait aussi envoyé, tu sais. Tous les acteurs faire de la promo de ouf partout. Il y a d'ailleurs petit nugget intéressant. Il y a Michael Keaton qui a dévoilé un truc trop important de l'intrigue dans le film pendant qu'il était en interview chez David Letterman. Gros, il a dit que c'était le Joker qui avait tué les parents de Bruce Wayne en plein milieu de l'interview. Tu vois, le truc impossible à faire aujourd'hui.
Ça a frappé, non ?
Peine de...
D'autant plus que ça me permet de rajouter que, premièrement, c'était assez couillu, entre guillemets, de la part de la Warner, parce qu'ils ont quand même un peu donné les clés du camion à Tim Burton, qui est un auteur, qui à l'époque, en tout cas, était un vrai auteur, quoi, tu vois. Donc, il y a une vraie esthétique, il y a quelque chose d'assez travaillé, quoi. Et du coup, ça me permet de rajouter aussi qu'au niveau sur la définition, que voilà, tu commences direct avec un film de super-héros. Voilà, on peut dire clairement que le blockbuster ne connaît pas de genre particulier. Ça peut aussi bien être un film d'action que de super-héros, que d'aventure, que etc. Donc voilà, on va trouver plein de genres différents. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Batman, c'est un super film. Et là, tu commences tout doucement à aller vers le côté nostalgie que je voulais aller des années 90 et de la culture vidéoclub où moi par exemple il y a genre 8 films qui sont sortis entre 93 et 97 et ça correspond typiquement où j'allais avec mon dad au vidéoclub checker s'il y avait la petite étiquette devant la nouveauté qui était à 8 jaquettes, tu sais, c'était les... parce qu'en fait dans le vidéoclub en gros c'était genre les gros films, le nombre de vidéos disponibles était matérialisé par le nombre de jaquettes sur les étagères, tu vois. Et donc genre si t'avais Batman, t'avais une rangée complète et du coup tu guettais voir si le gérant il allait poser une étiquette, ça veut dire qu'il y avait eu un retour et que t'allais pouvoir te taper la VHS du Batman ou de Tim Burton, donc c'est très cool, excellent choix.
Big up au flash vidéo d'Albi, tu sais, avec le ticket rose dans lequel on a pris tellement de films là-bas.
Ouais,
mais j'aime bien là ce que tu dis sur ce que t'as dit justement sur les blogs. Enfin, moi ça m'a un peu fait ça quand j'ai fait ma liste, c'est qu'un côté hyper nostalgique. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y a plein de films que j'ai mis, pas parce que je pense que si je les revoyais aujourd'hui, je trouverais ça très moyen, mais juste parce qu'à l'époque où je les ai vus, je me suis dit, mais j'étais passé un trop
marqué
moment,
ton
quoi.
Enfance.
Ouais, ouais, bref.
Ton numéro 10.
Alors, moi, je vais commencer par un film d'action classique. J'ai mis Jason Bourne à mémoire dans la peau parce que j'ai passé un bon moment. Il y a des explosions, il y a des courses, il y a des. Enfin, voilà, c'était cool quoi. C'était cool, okay. Jason Bourne.
C'est le...
Du coup, excuse-moi, c'est lequel? C'est le premier ou le 2, le 3?
Le premier, la mémoire
le
dans
premier.
La peau.
Alors, la mémoire dans la peau,
sorti l'été. Ah, parce qu'il y avait la contrainte de l'été, franchement, c'était chaud ça. Mais oui, la mémoire dans la peau, j'avais trouvé ça, je sais pas. Quand
bon choix.
Vu, ça divers, ouais,
c'était, c'était le James Bond, tu sais, le James Bond pour les jeunes, quoi.
Ouais,
un
c'est,
petit
ça,
peu.
C'est ça, ouais. Voilà.
Ouais, c'est vrai, pas mal du tout. Alors moi, mon numéro 10, on est à fond dans la nostalgie, puisque c'était un de mes films préférés quand j'avais 15 ans, je pense, c'est Last Action Hero avec Schwarzenegger, qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, raconte l'histoire d'un gamin qui est au cinéma et qui regarde un film d'action, donc on a un côté méta, puisque c'est un blockbuster sur les blockbusters, tu vois, et donc c'est ce gamin qui va crever l'écran, qui va se retrouver dans le film avec Schwarzenegger et aller résoudre des enquêtes et tout. Et ce film, je crois que il résume pas mieux mon adolescence, tu vois. C'est-à-dire, c'est les vacances d'été, donc je me mets en mode popcorn canapé, je regarde Last Action Hero et je suis trop content parce que c'est aussi Jock McTiernan en fait qui est quasiment dans l'autodérision, où chaque fois qu'il y a une scène de flic, il y a tout de suite 150 voitures de police qui arrivent. Tu sais, il y a vraiment ce côté film d'action des années 90 avec, tu sais, le nombre de flics, tu sais, beaucoup de flics, beaucoup d'explosions, beaucoup avec Schwarzenegger qui fait un énorme travail sur lui aussi de qu'est-ce que c'est que d'être un héros d'action. Et puis, au-delà de ça, c'est un très bon film parce qu'il est bien réalisé, il est fun, il est marrant. Je suis sûr que même tu le regardes aujourd'hui, il reste encore frais. Il reste super frais parce qu'en plus, il a réussi à, à renfermer comme un petit écrin ce Los Angeles des années 90, tu sais, avec, avec Sharon Stone qui fait un caméo qui sort de Basic Instinct et tout. Il y a vraiment ce... Il y a même le méchant de Terminator aussi qui est dans le commissariat qui ressemble à rien, où il y a des personnages de dessin animé. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est cette époque-là. Donc vraiment, numéro 10, Last Action Hero.
Et puis même, pédagogiquement parlant, pour nous, en fait, en tant qu'enfants à l'époque, ça nous faisait comprendre qu'il y avait des clichés dans les films d'action, tu vois. Parce que, justement, ça les poussait dans une certaine parodie. Parce que c'était quand même une parodie bien faite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des films qui pourraient même... d'action, en fait, qui pourraient le faire totalement au premier degré, certaines scènes, justement, les 150 flics, etc., comme tu dis. Mais nous, ça nous a appris à nous dire « Ah putain, c'est vrai qu'en fait, on nous manipule, tu vois, par l'image, et c'était vraiment... »
Je n'ai jamais vu, mais je
mais en plus, John McTiernan, c'est quand même un des réalisateurs qui, même dans ses films soi-disant sérieux, se fout de la gueule des films d'action. Et tu sais, on se rappellera de la scène dans... Bah justement, j'en parlais tout à l'heure, dans Predator, où pendant, je sais pas, genre littéralement 5 minutes, il y a toute l'équipe de gros bras musclés qui sont en train de tirer et de vider toutes leurs munitions dans des arbres. Juste dans des arbres, parce qu'ils ont cru qu'il y avait quelque chose là-bas, tu vois. Et tu vois juste des arbres tomber. Et voilà, et tu entends les commentaires de John McTiernan, et clairement, il dit que c'était du second degré, c'était, ouais, c'était du fun, mais que les producteurs n'ont rien vu. Ils étaient là, ils étaient contents parce qu'il y avait des guns qui pétaient.
Ok, très bien. Reski, ton numéro 9.
Numéro 9, ben là, on attaque, dire, ben, on est dans la nostalgie toujours. Le Roi Lion. Le Roi Lion, qui était sorti en été, je me souviens pour le coup, alors je sais plus si c'était l'été nous quand on y est allé, mais en tout cas, moi, je me souviens l'avoir vu au cinéma. Et ouais, genre vraiment grand spectacle de ouf. Alors, c'était pas le premier Disney à avoir de la 3D, mais c'était le premier où on en parlait énormément de cette fameuse 3D, des gnous et tout ça. Je me souviens d'avoir vu des... À l'époque, tu sais, le cinéma des effets spéciaux sur la cinquième, voir, tu sais, le graphisme fil de fer des gnous et tout ça. Et donc, et puis, même en français, gros budget sur les gens qui doublaient, puis c'était Jean Reno qui faisait Mufasa, etc. Donc, il y avait vraiment gros truc. Et puis, ouais, après la discussion avec Cyril la dernière fois dans l'épisode de Brightburn, il y a ce côté, oui, je crois qu'on peut effectivement mettre les films d'animation dans cette catégorie aussi gros budget, spécialement à l'époque où vraiment une sortie Disney, c'était l'événement de l'année ou même de tous les deux ans, donc c'est important.
Ok, great. Fabien, toi, ton numéro 9.
Mon numéro 9, ce serait... bon, pareil, on attaque direct le culte. Ce serait Retour vers le futur, le premier, bien évidemment. Ne serait-ce que juste pour la scène de la reprise de Johnny B. Goode qui m'a donné, vraiment je l'avais revu, enfin je l'ai vu plein de fois ce film, et je l'avais revu il y a, je sais pas, il y a 4-5 ans quand je savais jouer de la guitare, et j'ai vu cette scène, je me suis dit vas-y, je vais apprendre, et j'ai eu envie d'apprendre le morceau juste parce que je l'ai vu joué par Marty McFly, quoi. Donc non, Retour vers le futur, trop bien.
C'est là.
Bon, cool. On s'en lasse pas de refaire Retour vers le futur.
Excellent, ouais. Choix. 85, je vois, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir ça au cinéma, tu vois. Ouais. C'est partie de ces films que nous, on a certainement vu en VHS, tu vois, petit, ouais, à 12-13 ans. Et c'est des films qui, en plus, ne vieillissent pas, quoi. Tu peux les regarder comme t'écoutes un CD, tu vois, tu les laisses, exactement, tourner, tu les connais par cœur. Ouais, mais, et d'ailleurs, il paraît que... Christopher Lloyd est super chaud pour faire une suite
hein, ouais.
Ça fait des années qu'il le dit, alors je sais pas s'il fait des grands appels de phare au studio en disant hey, les gars, je suis dispo. Donc ça pourrait être intéressant de voir ça.
Pour ceux qui ont vu Stranger Things saison 3, alors Stranger Things pour le coup c'est la série des gros nostalgiques justement des années 80, et dans la saison 3 c'est en 85, et donc il y a justement Retour vers le futur qui sort au cinéma, et ils vont le voir au cinéma, et il y a une petite scène où en fait simplement on voit la fin du film, et surtout le public de 85 en train de voir la fin du film. Et c'est vrai que ce que tu dis, Jean-Yves, j'aimerais tellement juste voyager dans le temps pour... Il y a certains films où j'ai envie de voir les gens, tu sais, qui découvrent ces choses-là quand elles arrivent vraiment en direct, plus être les spectateurs blasés qu'on peut être parfois.
Ouais, c'est clair.
Ok, très bien. Alors moi, mon numéro 9, donc je vais, ça va être en lien avec ce que tu disais, Fabien, parce que moi, mon numéro 9, c'est The Bourne Ultimatum, donc le 3, la vengeance dans la peau, avec Matt Damon, réalisé par Paul Greengrass, 2007, avec un bon budget de 110 millions de dollars, tu vois, avec beaucoup de voitures qui pètent, de grosses bagarres. Moi, ce que j'aime, moi, ce que je trouve que... Ce que... J'aime bien dans The Bourne, la série Bourne, c'est que déjà il y avait une vraie volonté de lancer quelque chose de nouveau, parce que ce qu'il a amené, c'est déjà une super réalisation, un super montage très sous amphétamine à fond, où vraiment tu prends les coups de poing dans la tête à chaque fois que la caméra tourne, et les bonnes bagarres, les bonnes chorégraphies de bagarres, et surtout. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est super bien réalisé dans ces films, c'est les courses de voitures. C'est très bien filmé, en fait. Notamment, je sais que dans La mort dans la peau, il y en a une qui est très bien filmée aussi. Il y en a une à New York aussi, dans le
Oui,
3. Donc voilà,
elle était
c'est un
très très bien.
spectacle un peu total. Et, voilà, c'est pas pour autant trop dans le numérique, tu vois. Ça reste très concret, ça reste du gros coup de poing, de la course de bagnole, des fusils de sniper. Donc j'aime beaucoup ce film. C'est très divertissant, et moi je peux le re... je crois que je l'ai vu plusieurs fois, et je pourrais très bien me le remater d'ici la fin de l'été.
Numéro 8 pour moi, c'est Speed. Speed parce que c'est
Allez!
la
Speed,
Speed parce que c'est la quintessence de du blockbuster avec des stars de l'époque, des jeunes stars de l'époque, et même une vieille star avec c'était Dennis Hopper qui jouait le méchant
Méchant, ouais.
dans le film. Et ça, clairement, ça a marqué aussi tous les films d'action d'après. Tout le monde faisait la référence du fameux truc. Ah, mais pourquoi si tu décélérais, ton truc va exploser, etc. Non, mais c'était techniquement aussi moi ce que j'aime bien dans ce film, c'est le côté tiens, on a une idée, un pitch intéressant. Tu sais, parce que tu sens bien que c'est la sorte de pitch dans les déjeuners hollywoodiens. Genre ouais, ok, je vais produire ça, mais qui a quand même été utilisé vraiment jusqu'au bout avec des jolies choses autour pour vendre un film excellent. Voilà.
Ouais, c'est
Après, je dis ça, je ne l'ai pas revu depuis probablement 15 ans, mais il faudrait que
excellent
je...
choix.
Il y avait le côté presque huis clos qui était... enfin, huis clos
Oui,
qui
mais c'est ça.
bouge,
Hein.
mais ouais, qui était assez cool. Je suis d'accord.
Excellent choix, surtout qu'en plus c'est une énorme réussite commerciale, parce qu'il y a un budget estimé, je vois, à 30 millions de dollars, et ça en a remporté genre 350.
Ah oui, tiens.
Une telle réussite qui a donné lieu, qui crée un précédent sur les suites What the fuck, n'importe quoi, où le 2, je me rappelle, c'était un bateau,
Un
je crois, qu'il
bateau, ouais,
fallait
c'était un
arrêter.
bateau de
Donc,
croisière.
Exactement, ouais.
donc finalement, c'est pas si récent, c'est assez vieux, en fait, cette idée de faire des suites pour faire des suites où c'est n'importe quoi, tu vois, avec Sandra Bullock.
Ouais. Ou Keanu Reeves avait refusé de faire la suite parce que, bah, à la place, il voulait faire du Hamlet au théâtre avec ses potes et jouer dans
Génial.
son groupe de musique. Et c'est Jason Patric qui a repris le truc dans une suite un peu douteuse, mais toujours avec le côté Caraïbes été.
Voilà.
Excellent choix, excellent choix. Du coup, Fabien, ton numéro 8.
Moi, je mettrais Rush Hour. Parce que,
Ah, pas
alors, tu vois, ça
mal.
m'a fait penser quand tu parlais de chorégraphie tout à l'heure avec Jason Bourne. Moi, genre, j'adore Jackie Chan parce que quand je
Ah
regarde les
oui.
combats, j'ai l'impression de voir de la danse, je trouve ça trop fort. Et c'est, enfin, surtout Jackie Chan en particulier, parce que c'est pas le côté bagarre qui me plaît, c'est le côté, enfin, ce que t'as, tu vois, dans ce style, t'as aussi dans le côté genre combat, genre un peu à la Jet Li et tout,
Ouais.
c'est assez cool. Mais là, Jackie Chan, il y a en plus un côté vraiment hyper créatif et hyper drôle où
Ouais.
il va se battre avec n'importe quoi, avec des chaises et il trouve des
Des
espèces d'idées.
idées,
Moi, j'adorais. En fait, moi, j'étais plus. J'ai l'impression de voir un jeu, de jouer avec le chorégraphe en me disant, mais ouais, t'as réussi à trouver ce truc de te battre avec une plante et tout, je trouve ça trop fort. Et j'adorais ça. Mais en plus, après, avec le côté comique du duo.
Oui, buddy cop movie. C'est vrai que ouais,
Voilà.
c'est un
J'ai bien aimé
bon.
Rush Hour. Ouais.
C'est
Plus.
encore un truc très nostalgique, parce que autant
Ouais.
Rush Hour, c'est très sympa, et c'est drôle, c'est fun, mais j'ai un souvenir très ému de... Moi, je regardais Opération Condor en VHS avec Jackie Chan. Enfin, les films de Jackie Chan, c'était vraiment très divertissant. Quand t'as
Ouais.
12-13 ans, c'est vraiment très très cool,
Ah mais
quoi.
je pense que ça m'éclate encore aujourd'hui en plus hein.
Ah, mais certainement,
Parce que pour le coup
certainement.
à l'époque je rigolais de voir les personnages qui faisaient des grimaces et tout. Maintenant juste ça m'éclate de voir les chorégraphies de Jackie Chan, je trouve ça trop bien.
All right, très bien. Alors, mon numéro 8, Aliens de James Cameron.
Je pense que la fin du top, ça va être très rapide parce que j'ai l'impression qu'on a plein de trucs similaires.
Certainement. Donc, de James Cameron, que j'ai revu hier avec grand plaisir. Pourquoi ce film, je l'adore? Parce que c'est ce qui fait la particularité et la force de la saga Alien, c'est que dans la saga Alien, chaque réalisateur a essayé d'amener sa patte et d'amener un truc différent. Où là, clairement, ce qui est très sympa dans ce film, c'est que ça fait film de science-fiction, film d'horreur, mais à l'arrivée, l'essence du film, c'est quand même des gros échanges de guns et de grosses ouais. ammo à base de gros calibres. Et ça reste un gros film d'action, un gros film où on fait que vider des chargeurs sur des aliens. Et il y a un côté action, il y a un côté très... blockbuster d'action dans un film avec des aliens. Et c'est ça que j'aime beaucoup et qui est très divertissant. Et t'as des super acteurs... T'as Bill Paxton évidemment hein, qui est bon. C'est très cool.
Là pour le coup, Aliens, voilà ce qu'on dit tout à l'heure, la volonté de divertissement et la volonté de populaire, c'est ça en fait. C'est James Cameron, il s'est dit ok, qu'est-ce que je fais avec ce premier film Alien qui d'ailleurs était sorti en été aussi. Oui. Mais qu'est-ce que j'en fais pour faire un truc vraiment spectaculaire et que tout le monde va aller voir. Ça,
ouais, 1986 du coup pour Aliens.
Pardon.
Vas-y.
Non, j'allais continuer directement avec mon numéro 7 qui est Retour vers le futur. Donc voilà, on se rejoint là. Je pense qu'au bout d'un moment, on a...
Ok, très bien.
Moi, en numéro 7, je mettrais Pirates des Caraïbes. Parce que, alors, pareil, je sais pas si ça me plairait aujourd'hui. Je pense qu'il y aura un peu de nostalgie, mais je me souviens à l'époque, la première fois que je l'ai vu, j'avais adoré ça. C'était un de mes films préférés. Genre, je sais pas, je devais avoir 10, 11 ans à l'époque. Et je suis plus jeune. Non, je suis très jeune. Et j'avais trouvé ça, je sais pas, j'avais adoré. Enfin, j'avais l'impression que c'est un truc que j'avais jamais vu, ce genre de. Peut-être que j'avais rien vu, hein. Mais je sais pas, ce genre d'intrigue et tout. J'adorais le côté un peu chevaleresque avec les combats d'épée, mais en même temps, le truc un peu de science-fiction, des mecs qui deviennent des espèces de morts-vivants.
Et puis c'était le renouveau du film d'aventure parce que pendant longtemps, après les Indiana Jones, il y a eu un gros vide, quoi. Il y a eu un petit pic avec la momie, tu vois. Et ensuite, il fallait vraiment revenir avec quelque chose.
Et puis, ce qui est cool, le Pirates des Caraïbes, c'est que c'est vraiment adapté au public jeune, quoi. C'est pas un truc. Enfin, tu vois, ils ont réussi à mettre un truc un peu. Enfin, je veux dire, espèce de zombie, pas des zombies, mais espèce de mort-vivant un peu bizarre, mais c'est hyper.
Ouais, c'est PG-13, comme ils disent. Ouais, voilà, largement. Tout le monde peut regarder ça. 8 ans, divertissement ça, familial, mais avec des choses peut-être aussi un peu plus. Effrayante peut-être.
Ouais, mais en tout cas, moi j'avais vraiment un souvenir. J'avais adoré l'univers de ce truc-là. J'ai vraiment un très très bon souvenir de ce film.
En plus, niveau thune, là, on est vraiment dans le dur de la définition parce que c'est un film de 2003. Donc attention à l'inflation, budget 140 millions de dollars. Wow, quoi. Attends, t'imagines, dans les débuts des années 2000, c'était vraiment stratosphérique. Quoi. Donc du coup, Et ça, moi, ça paraît logique parce que ce que j'adore dans Pirates des Caraïbes, il est dans mon top également, c'est que au-delà de ce que tu dis sur le côté, on va voir ça au ciné, on y va quasi en famille, entre potes, et on prend une grosse dose de soleil et de divertissement. Il y a aussi, on reste dans du concret et dans du dur. C'est des super décors, des super costumes. T'y crois, quoi. Il y a pas de 3D, c'est des vrais bateaux et tout. Il y a un côté quasi ultra réaliste dans l'histoire. T'as l'impression d'être pirate avec eux. Et puis il y a aussi, il faut pas l'oublier, Johnny Depp qui porte le film, qui incarne ce personnage tellement bien. Donc ouais, c'est clair que Pirates des Caraïbes. Et puis ça, c'est le début de Disney comme conglomérat de, tu sais, c'était les, on disait ah ça c'est un film Disney, c'était assez fort quand on avait, on adapte carrément une attraction de Disneyland, quoi, hein, Pirates des Caraïbes à la base c'est un manège, quoi, donc on l'adapte en grosse usine à popcorn, génial, et c'est cool, et l'histoire est bien, le scénario est bien, c'est pas juste que de l'esbrouf, que du spectacle, il y a un bon scénario derrière aussi, quoi. Excellent choix.
Avec, c'était les scénaristes de Aladdin d'ailleurs, Terry Rossio et je sais plus qui s'en était occupé.
Alright, c'est à moi je crois, non?
Ouais, c'est numéro ton 7.
Alors moi mon numéro 7 qui va être certainement dans d'autres tops, c'est Inception de Christopher Nolan. Ouais. Énorme claque, hein. Moi Christopher Nolan c'est un de mes réalisateurs préférés parce qu'il synthétise de moi ce que j'aime, c'est-à-dire à la fois le cinéma mainstream, de spectacle, de divertissement, mais aussi une patte, un message, un auteur, c'est-à-dire quelqu'un vraiment, pour moi c'est vraiment un cinéaste total quoi, Christopher Nolan, qui arrive à mettre tout le monde d'accord. Et Inception, c'est un peu ça, c'est du gros spectacle, c'est un super scénario, c'est des effets spéciaux à couper le souffle, c'est des super acteurs, c'est une histoire de dingue, donc voilà, Inception.
Et prouesse d'ailleurs à faire un blockbuster à partir d'un film et d'un scénario qui est communément accepté par tout le monde pour dire oh là là, c'est compliqué et c'est intelligent, mais vous êtes tous allés le voir aussi en fait, et ça, c'est vraiment très très important, je trouve. Dans la vie.
J'en profite pour dire que le nouveau Christopher Nolan qui est dans les tuyaux va être assez ouf. Ouais. Parce que juste pour donner une idée de l'idée qui tient, c'est Pattinson qui raconte ça, qui dit que les acteurs qui lisent le script, ils viennent le faire dans une pièce fermée sans téléphone portable en fait. C'est-à-dire que genre Pattinson, il dit que il a été enfermé dans une pièce, genre limite à poil quoi, tu vois, genre sans rien. Le script, il lit le script, il sort de la pièce terminée, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment ces sous-clés, donc je pense qu'il nous prépare vraiment. Il a annoncé comme le plus gros blockbuster de tous les temps, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça.
Mon numéro 6, ça va être les spécialistes des blockbusters, c'est Indiana Jones et la dernière croisade. Parce que il y a tout dedans. C'est l'époque des films mondes d'aventure. Vous parliez de Pirates des Caraïbes, moi je suis reparti un petit peu à la racine du truc, enfin pas vraiment la racine parce que ce serait l'Arche perdue qui est aussi un blockbuster de l'été, mais moi j'ai mis le 3 parce que le 3 c'est aussi ce que moi j'ai vu, alors je sais pas si je l'ai vu au cinéma pour le coup, mais bon, en gros je me souviens de tout en fait, de ce film, de Sean Connery, de l'alchimie qu'il y avait entre le père et le fils, le côté vraiment je vais absolument partout avec les anciens avions, tu sais, les petits tirés rouges sur la map, etc. Il y a tout ce qu'il faut, et puis c'est bien sûr l'équipe de Spielberg et George Lucas, c'est parfait quoi.
Excellent choix.
Moi, j'avais envie de mettre un film français, je vais vraiment passer pour. Franchement, j'avais mis La Grande Vadrouille parce que j'avais l'impression que ça réunissait tout. Franchement, je suis désolé.
Bah, en fait, je pense que ça rentre dedans, en fait. Parce que je pense que La Grande Vadrouille, ça a coûté cher pour l'époque.
Je pense que ça a coûté cher pour l'époque.
Ne serait-ce que parce qu'il y a De Funès, en fait.
De Funès, il y a Bourville, et je suis désolé, plus gros succès français jusqu'à 2000, je sais pas combien, donc.
Non mais Jean-Yves va nous dire le budget. Je sais pas s'il y a le budget de l'époque.
Alors c'est
mais...
c'est estimé. C'est en francs, c'est trop bien. Il y a marqué budget estimé 15 millions de francs.
Ah non mais ça doit être
énorme.
Après
quand tu le regardes, c'est
avec l'inflation et tout. Mais en même temps, en vrai non mais il y avait des gens qui étaient déjà très connus. Donc moi je pense que on rentre dans la catégorie de juste pour les payer, et voilà. Et en plus, il y avait du budget quand même dans le film. Donc
ah oui, c'est clair. Et j'aurais même pas dû me mettre en 6, j'aurais dû mettre plus devant parce que j'avais.
Ouais, puis 17 millions de spectateurs aussi. Donc c'est un énorme succès populaire, commercial, tout. Donc ouais, carrément, moi je suis
d'accord.
Et
moi je sais qu'à l'époque, c'est mon père évidemment qui m'avait fait. Enfin, c'est mes parents, surtout mon père qui m'avait fait découvrir ça. Et il me racontait. En fait, je trouvais ça fou. C'est ce que tu disais un peu, ça m'a fait penser tout à l'heure quand vous parliez de voir les gens qui sortent du cinéma. J'aurais adoré voir les salles de cinéma à l'époque. Parce que mon père a été voir au cinéma et il me racontait ça en me disant, mais c'était énorme. On allait au cinéma voir ce truc et les gens étaient fous en sortant parce que c'était hyper drôle. Et en vrai, il est trop drôle ce film. Je sais pas si ça a bien vieilli, je sais pas si ça serait aussi drôle aujourd'hui, mais quand j'étais enfant, je trouvais ça génial. Il y avait des scènes que je trouvais incroyables. Voilà. Donc La Grande Vadrouille, c'est pour mettre une petite graine un peu française là-dedans.
Tu as bien raison.
Voilà.
Ok, super. Donc moi, numéro 6, donc Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, comme toi. Donc on va pouvoir passer directement au numéro 5 de
Numéro
Aresti.
5, ça va être le deuxième James Cameron. Pour moi, c'est Terminator 2, Judgment Day, qui est... On parlait tout à l'heure des Terminators. C'est incroyable. J'aime bien me foutre de la gueule de parfois certains films. Et en pouvant les réduire à leur maximum, en fait. Tu sais, en pouvant juste parler de ce qui se passe vraiment dans le truc. Tu sais, il y a des films comme très très cons, comme 310 to Yuma, où tu pourrais dire, c'est des gens, ils vont prendre un train. Voilà, tu vois, où en gros, il se passe pas grand chose dedans. Et Terminator 2, c'est impossible. de faire ça. Parce qu'il y a des gens qui reviennent du futur pour tuer la mère de celui qui va... Et c'est trop bien, c'est génial, c'était extrêmement inventif aussi, que ce soit visuellement ou au niveau du scénario, ça a créé, mais combien de catchphrases à base de hasta la vista et tout ça dans tous les films d'action et clairement iconique pour Arnold Schwarzenegger. C'est encore aujourd'hui vraiment très très plaisant à regarder, c'est très intelligent aussi, donc voilà, numéro 5 pour moi.
Très bien. Moi, numéro 5, ce serait Batman Dark Knight Rises, donc le troisième de Christopher Nolan. Parce que le deuxième est aussi dans ma liste, mais un peu plus haut. Mais le troisième était vraiment fort. Je me rappelle comment il s'appelait
Tom Hardy.
Ouais, Tom Hardy, Dave. La scène dans le stade, etc., qui était incroyable. Pour tout le monde aux âges, c'était assez fou. Enfin, de toute façon, les trois Batman de Christopher Nolan sont assez géniaux. Mais le deuxième est pour moi le meilleur. Mais le troisième est quand même un bon souvenir. Ouais. J'avais vu au cinéma à l'époque, j'ai vraiment trouvé ça. Enfin, j'ai aussi une grosse claque. Enfin, comme ce que tu décris depuis le début, Jean-Yves, c'est genre visuellement, ça part dans tous les sens. C'est quand même hyper reconstruit, c'est suffisamment long pour qu'on soit pas frustré.
Et là, on peut pas dire que c'est trop de la nostalgie de quand on était jeune. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment, mais c'est vrai que je me souviens avoir pris
la
claque, quoi. Tu sais, le truc de te dire, j'ai envie de le revoir, en fait. Ouais. J'ai envie de revoir Bane parler, etc.
Et en plus, parce que j'ai aimé, je suis pas un gros fan de films super-héros, mais justement, j'ai adoré les Batman de Christopher Nolan, parce que c'est pas juste du super-héros de... C'est pas genre juste, vas-y, j'avale ce truc sans poser de questions et tout. Je trouve qu'il y a un côté hyper sombre et tout ça qu'on n'a pas forcément dans tout ce qui est Iron Man, Avengers et tout, quoi. Là, il y a un côté hyper sombre, hyper dur parfois, qui est vachement intéressant dans les Batman.
Il a mis tout le monde d'accord, c'est sûr. Et puis, j'ajouterais même que sur Dark Knight Rises, que moi j'adore, il a quand même réussi à presque nous faire croire, parce que moi je me rappelle très bien devant le film que Batman allait mourir, quoi, se fait latter la gueule par Tom Hardy. Il y a vraiment, tu sais que c'est ce truc qui n'existe plus d'ailleurs dans les super-héros actuels, les Avengers, où il y a un rapport de force, un équilibre qui est complètement biaisé par le fait que on te fait accepter que de toute façon ils sont immortels et qu'ils peuvent pas mourir, et c'est des batailles qui durent des heures, etc. Voilà. Là, clairement, tu vois Bruce Wayne au fond d'une cave, il est en état de mort, quoi, tu vois. Donc du coup, tu te dis clairement, c'est Nolan, est-ce qu'il va pas aller au bout du truc, et il y a un rapport inversé, ou voilà. Et c'est ça qui, dans Dark Knight Rises, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie montagne russe émotionnelle, quoi. Tu sais, c'est cette descente aux enfers qui après revient en apothéose. Enfin, c'est vraiment, ça te traverse dans tous les sens, quoi. Tu vois, c'est ça qui
et aussi, désolé de rajouter le péri-cinéma aussi, tu savais que contractuellement, c'était le dernier film de la trilogie, donc c'était possible, en fait, tu vois.
Oui.
C'était pas le côté genre, mais on sait qu'il a signé pour deux autres films, et donc voilà.
C'est vrai, excellent choix, bravo.
Ok, et du coup, c'est toi maintenant, c'est ça, le prochain?
Oui, c'est pour 5. Moi, pour le numéro 5. Alors moi, mon numéro 5, c'est Matrix, des frères Wachowski, de 1999, que j'ai revu et que vraiment... que j'adore, je l'ai, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a quelques films, je voulais vraiment les revoir pour être sûr que je les mettrais bien dans un top 10 blockbuster, et en fait Matrix, c'est vraiment cool, ça vieillit super bien. Pourquoi? Parce que il y a très peu d'effets spéciaux dans Matrix, tu sais, c'était l'époque où on commençait vraiment à mettre de la 3D un peu dans tous les sens, et finalement, hashtag Steven Spielberg, hashtag Jurassic Park, finalement dans Matrix, il y a énormément de cartouches de guns qui tombent par terre avec des petits bruits, il y a énormément de scènes de guns, il y a même des choppers, excuse-moi, mais le chopper, c'est un élément essentiel du blockbuster américain d'action. Donc vraiment, et puis il marque vraiment une transition dans le cinéma d'action mainstream, puisque c'est vraiment, ça marque vraiment, tu sais, cette espèce de saut du gros blockbuster vers cette mode au numérique, à la science-fiction, des technologies, etc. Ouais. On sent vraiment qu'il y a un vrai tremplin dans ce film, tu vois. Et c'est bien joué, c'est très divertissant. Donc voilà, Matrix, quoi.
Ouais. Parfait. Moi, le numéro 4, Aliens. Le 2, donc en français, Alien, le retour, du coup je te rejoins. Pour moi, c'est le premier dans la liste des James Cameron. Il en a quand même deux, voilà.
D'accord. Moi, je mettrais en quatrième, alors je sais pas si ça compte, si c'est un blockbuster quand même, The Boat That Rocked, qu'on avait appelé Good Morning England en France. Franchement, c'est pareil, j'avais regardé ça sans savoir trop ce que c'était. Et donc c'est ce film qui parle d'une radio pirate sur un bateau large de l'Angleterre, à l'époque où on ne pouvait pas diffuser trop de rock. Et c'était génial avec Philippe Seymour Hoffman qui jouait une espèce d'animateur radio.
Je vais être obligé, je crois, de mettre un veto sur ça. Hein. C'est pas un blockbuster, je pense.
Bah,
hein.
Y a
je
des
suis
stars,
pas sûr
ça
que ça a
cher.
Coûté très très cher.
Ça a cartonné.
Ça a cartonné, c'est sûr. Mais est-ce que on rentre pas dans le truc du film d'auteur?
Oh,
tu sais.
Ah ouais.
Qui a.
Bah, c'était populaire. Il y avait toutes ces chansons hyper pop et tout. Enfin, plutôt rock, mais très populaire, non?
Ce serait marrant que genre tout le budget soit passé dans les droits SACEM de.
Est-ce qu'il y a des explosions dans ce film ou pas?
Non, mais justement, c'est pour ça que ça change un petit peu. Ça change un petit peu, il n'y a pas d'explosion.
C'est les questions, tu sais, les questions avec les cases à cocher.
Est-ce que quand ils diffusent la radio, est-ce qu'ils sont dans des choppers ou pas, quoi? C'est ça que je
veux. Non, mais justement, c'était pour changer un petit peu. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de mort, mais quoi
tiens,
que ce soit.
Voilà, que les auditeurs nous répondent et nous envoient un message. Est-ce qu'on prend The Boat That Rocked ou pas?
Voilà.
Jean-Yves, le numéro 4.
Alors moi mon numéro 4 c'est Bad Boys, Bad Boys de Michael Bay avec Will Smith et Martin Lawrence, qui est un gros film d'été puisqu'en fait il y a tellement de soleil californien que quand tu regardes ce film tu peux même littéralement bronzer pendant que tu regardes le film parce que c'est toujours filmé en coucher de soleil avec des palmiers, c'est très divertissant. C'est de l'action pure, c'est du gun, c'est des slow motion de gars qui sautent, qui sautent sur des comptoirs et qui, ouais. Et voilà, qui donne lieu à des bonnes scènes de bons gros films de l'été, quoi. Ouais. Donc voilà, Bad Boys, Michael Bay.
En plus, c'est marrant parce qu'on parlait des suites tout à l'heure. Moi, je trouve que le 2 était largement au-dessus du premier.
Ah bon?
Ah, j'avais adoré
le
2. Le
2,
ouais.
Il est irregardable, franchement. Oh, mais là, pour le coup, en termes de. Y a trop de je le dis rarement, mais il y a trop de kérosène dans... mon numéro 3, bon, bah, je vais rejoindre un peu voilà, l'esprit de ce qui a été dit. C'est du Nolan, c'est The Dark Knight tout court.
Ouais.
C'est celui avec le Joker qui est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps par beaucoup, beaucoup de monde. Et ça allie blockbuster et vraiment qualité et intelligence de script. Donc voilà, numéro 3 pour moi. Et ça a marqué beaucoup de...
Petit fun fact d'ailleurs sur Dark Knight, que moi j'adore aussi, où on est encore dans Nolan qui continue à faire du nouveau, mais avec des vieux pots, avec des grosses explosions. C'est la fameuse scène du Joker qui fait péter l'hôpital.
Ouais.
Cet hôpital est un vrai hôpital qui était en voie de destruction, qui a été acheté juste pour le faire exploser. Donc là, on est clairement dans les années 90, où on fait péter du dur avec du kérosène et des flammes, tu vois.
Ouais.
Et du coup... Parce que même encore aujourd'hui, même si ça commence, ça, c'est encore très difficile, à moins d'avoir 800 millions de dollars de budget, de faire des bonnes flammes en 3D qui a l'air d'être vraies.
Ouais.
Et dans The Dark Knight, comme ce sont des vraies flammes, c'est
oui,
intemporel
c'est
en
parfait,
fait.
Ouais.
Vraiment, tu sens la chaleur qui vient frotter ta joue de ce truc qui vient d'exploser. Mais
d'ailleurs, très intéressant que tu parles de faire des flammes en images de synthèse et de la difficulté. Mon numéro 2 va en discuter.
Mais en plus, sur ça, il y a cette anecdote justement sur Heath Ledger, apparemment, qui est le sursaut quand il explose, qui est un vrai sursaut parce que ça a pété plus tôt que prévu, je sais pas quoi, et il a vraiment flippé, et c'est pour ça qu'il se barre en courant vers l'ambulance. Là, parce que... Bref. Les gars, est-ce que je peux vous balancer mes 1, 2, 3
Oui, parce que là, Fabien est pressé, donc il va nous.
Ça vous dérange pas?
Ouais,
allez, vas-y,
vas-y,
on y va.
Et vous débattrez sur ma droite. Alors, moi, je mettrais en 3ème, je mettrais Very Bad Trip.
D'accord. Ah putain, pas con, j'avais pas du
pas
tout
mal.
Ça.
Blockbuster comedy un peu, c'est vrai. C'est
ouais,
pas
c'est
mal.
Blockbuster
pareil, parce que je m'attendais pas, je savais pas du tout, je m'attendais à voir un truc un peu beauf et tout, et en fait c'était hyper drôle et plutôt. Franchement, c'était plutôt bien écrit pour un truc qui se veut un peu débile quoi.
Oui,
et c'est
ouais.
pas si débile en vrai, c'est plutôt bien foutu l'histoire de. On essaie de reconstituer la soirée et tout.
Qui a clairement fait en plus la carrière de plein de monde,
bah,
hein, que ce soit Bradley Cooper ou Zach Galifianakis, etc.
Ensuite, j'aurais mis Bad Boys 2 en 3ème et Very Bad Trip en 2ème quand même.
Ah ouais, ok.
Et Dark Knight en 1er.
Ah, Dark Knight en 1er, donc on revient à tout ça.
Voilà. De toute façon, mon top 3 était pas si fou.
Ouais. Non, mais c'est bien.
Very Bad Trip, on va pas tirer parce que c'était. Tu vois, c'est pas du blockbuster avec des explosions, mais c'est. C'est pareil, c'est gros budget, gros carton, et enfin même les deux suivants sont assez bons aussi, je trouve.
Tout à fait.
Ils sont partis dans un délire de trilogie presque. Je vois la com sur le 3ème était un peu là-dessus, basée sur c'est une trilogie à la manière de
Batman.
Non, mais à la manière de Batman et tout, mais avec une comédie, je trouve ça fort de faire ça comme ça. Voilà.
En espérant voir la Grande Vadrouille 2 et 3 du coup bientôt
le reboot
sûr,
de la Grande Vadrouille.
Vous moquez de moi, mais regardez le nombre de trucs que ça a influencé le principe du duo à la con comme ça.
Non, mais c'est vrai que ça compte beaucoup aussi dans le blockbuster, le côté ça a tellement marqué une génération que ça a changé les films d'après en vrai.
Voilà.
Voilà. Ouais. Bah écoute, on te retient pas plus longtemps.
Désolé,
comme ça,
désolé, bah, faut pas que je rate celui-là, quoi.
Voilà, c'est très bien. Et on va continuer à deux. Alors en même
ça
temps,
va, ça va aller vite, je pense, parce ouais. que je pense qu'on a quasiment les mêmes films.
Exactement.
Donc moi, en numéro 3, ce sera Die Hard 3, Une journée en enfer.
Oh putain, ok.
Qui vraiment, littéralement, il y a tellement de kérosène que l'affiche est en train de brûler. Quand tu la vois, Bruce Willis, il dégouline de sueur tellement il a chaud.
Non, mais il y a même une des affiches de ce film qui est que du feu. Marqué Die Hard with a Vengeance en blanc sur noir. Donc
Et d'ailleurs, et tu sais que moi j'avais le. Je me rappelle, c'est sur la Nostalgie Video Club. Moi je me rappelle dans ma chambre avoir le poster, tu sais, les posters de 2 mètres sur 1 m50, tu sais, les gros posters.
Ah oui.
Et donc j'avais ce poster enflammé de Die Hard. Et donc voilà, super film, grosse action. Il y a aussi un super méchant, Jeremy Irons. Il y a beaucoup d'excellents personnages. Et Bruce Willis qui porte vraiment ce film avec ce John McClane, cette espèce de héros de flic ordinaire qui, à la sueur du front, va aller résoudre des énigmes et défuse des bombes. Donc vraiment super film à conseiller, à revoir à tout le monde.
Et puis ça se passait pendant une canicule et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de
en plus
de
voilà il y a le côté caniculaire ouais
enfin tu sais de bah c'est un peu comme Bad Boys aussi il y a le côté tu sais il fait chaud à l'écran il fait chaud à l'extérieur de l'écran aussi donc on rentre plus facilement dans le film. Mon numéro 2, The Rock.
The Rock
de Michael Bay, c'est obligatoire là pour le coup. Je me souviens clairement de quand je suis rentré dans cette salle du cinéma Tivoli à Albi. On était arrivé un poil en retard, donc j'ai pas vu, je crois, le tout début que j'ai découvert après, mais je crois que c'était Ed Harris qui allait voir la tombe de sa femme, et tout de suite après il y a le gaz VX qui était volé dans le voilà, et ça fait toute mon enfance. Était là, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a les grandes stars qui participent au film. C'est le film à gros budget, c'est du Jerry Bruckheimer, donc tu sais qu'il y a toute la machine de marketing derrière de l'époque déjà, alors que c'était 95 pour le coup, 96, non, c'est ça, 95 je crois, qui avait vraiment vendu le film. Il me semble même qu'il n'y avait pas eu un passage à Cannes aussi de toutes ces personnes-là, peut-être pour en mode hors peut-être. Compétition pour film, tout ça. Et ouais. Pour le coup, c'est très important. Okay. C'est le blockbuster aussi. Voilà.
Bon, moi, du coup, j'ai un peu triché parce que comme je savais que tu mettrais ce film, je ne l'ai pas mis. Du coup, j'ai réussi à tweaker un petit top 11, tu vois. Mais effectivement, je te rejoins, The Rock, ça reste un classique très divertissant. Et puis voilà, Nicolas Cage, quoi. Nicolas Cage, Sean Connery. Il a presque réussi à remettre cette espèce de coolitude de daron qu'il y avait dans Indiana Jones 3. Tu sais, il est un peu là, il fait quand même des clins d'œil à son personnage de James Bond. Puisque c'est son personnage, c'est le vieux agent du MI6 qu'on a enfermé dans une prison, donc il y a de la nostalgie à ce niveau-là aussi, et donc voilà, c'est très cool, c'est très divertissant. Ok, alors moi, mon numéro 2, pour vérifier, mais ça va être de la redire, mon numéro 2, c'est Dark Knight, de 2008, avec le Joker, pour toutes les raisons qu'on a déjà dit.
Et mon numéro 1, bah, tu l'as déjà dit aussi, c'est Die Hard with a Vengeance, Une journée en enfer, donc Die Hard 3, voilà, parce que là aussi, ça réunit tout, on en a parlé, c'est l'été, c'est Bruce Willis.
Et puis l'élément, ce qu'on appelle l'élément comédie aussi, avec Samuel Jackson qui arrive, il y a cette espèce de binôme à base de, avec des snappy one-liners un peu qui fusent dans tous les sens tout le temps. Et ça, c'est vraiment un truc fort du divertissement, je trouve.
Et puis aussi les énigmes à résoudre du méchant, ça fait très mot fléché d'été, tu vois.
Oh, j'adore.
Ça fait très cahier d'exercice.
C'est clair. Bon, mon numéro 1 qui est la quintessence du blockbuster, c'est bien sûr Volteface de John Woo avec Nicolas Cage et John Travolta. Pourquoi ce film, il est trop bien, je l'ai revu, ça prend pas une ride parce que t'as Nicolas Cage déjà. T'as Nicolas Cage qui, à chaque fois qu'il arrive dans une pièce, est en slow motion et il y a son manteau qui flotte au vent. Non seulement il flotte au vent, mais Un truc que j'avais oublié dans ce film, c'est que John Woo s'amuse à mettre des bruitages à chaque fois qu'il y a des trucs qui... Tu sais, genre, il y a des mouvements de caméra qui font genre... Ouais. Dans tous les sens, tu vois.
Dès qu'il sort d'une voiture, il y a des colombes qui sortent en même temps.
Les scènes d'action sont juste, mais génialissimes, en fait. La première scène en mode Nicolas Cage dans une poursuite en un jet privé, face-off avec John Travolta qui conduit un Hummer, avec des gars en slow-mo qui sont en permanence en train de sauter, de mettre des gros coups de double guns, ça rend trop bien. Et un élément qui est très années 90 aussi, qui s'est perdu aujourd'hui certainement à cause de la 3D, c'est que on disait quoi à l'époque ? On disait ce film il est trop bien parce que quoi ? Il y a des superbes cascades, mon gars. Et oui, dans ce film, t'as des gars, t'avais un vrai savoir-faire de gars qui sautent d'une plateforme pétrolière à 50 mètres de haut au ralenti en slow motion, et ça c'est un vrai qu'il fait. T'as aussi une scène qui est invraisemblable, c'est sur le duel final, ils sont tous les deux, ils font des poursuites de hors-bord en bateau, et en fait le cascadeur, il y a une cascade, c'est il est enchaîné et il fait du ski nautique à mocassin nu, le gars, en fait, tu vois, genre il est sur l'eau à pleine vitesse, et voilà. Et ça c'est un élément, c'est de dire, tu disais, ah ouais, c'est, il y a des grosses cascades, et c'est ça, c'est vraiment le kérosène. Et puis voilà, c'est volte-face, c'est quoi, c'est le blockbuster analogique, tu vois, c'est, il y a pas de, il y a que du concret, il y a que, il y a un bidon d'essence, trois allumettes, trois cascades, et c'est ça aussi le blockbuster, c'est... que j'aime des années 90. Et voilà, le duo John Travolta Nicolas Cage, mais c'est génial, franchement. Et puis on te fait quand même accepter d'entrer, et tu dis ok, que on va échanger des visages, quoi. Enfin, je veux dire, quand on y réfléchit, c'est quand même invraisemblable, et tu l'acceptes, tu dis ouais, pourquoi pas. C'était l'époque où la chirurgie esthétique, ça commençait, on se dit ouais, on va pouvoir faire ça
d'ici vite fait, tu sais. Et après, sinon, les 20 kilos de trop de Travolta par rapport à Nicolas Cage, ouais, t'inquiète, ça va passer.
Donc voilà,
non, mais je suis d'accord avec le côté analogique, le côté plus palpable, en fait. Tout est beaucoup plus réel, et c'est vrai que dans ces... Mais, et aussi, c'était pour ça que ça coûtait cher, en l'occurrence. Du coup, ça validait le fait que ce soit un film à gros budget. C'est qu'aujourd'hui, on a cette facilité d'avoir des films qui sont des films d'action, qui vont peut-être avoir, soi-disant, 1000 fois plus de spectacle qu'un ancien film, sauf que tout est en image de synthèse, et on le voit, en fait. Ça se voit qu'il y a rien d'aussi spectaculaire. On sait qu'il y a pas de cascadeur parce que on voit pas le mec avec la petite perruque qui va pas.
C'est ça. qui ressemble vaguement à l'acteur si tu regardes bien, tu sais. Non, et puis c'est vraiment très agréable de voir ce genre de film. Ils continuent une tradition qu'ils avaient commencé avec Paul Verhoeven. Tu sais, dans les années 90, on commence à voir de plus en plus Hollywood qui allait mettre le grappin sur les talents du monde entier pour aller, et là, des John Woo, évidemment, qui vient amener des colombes en slow-mo, et ça déménage, quoi. Ils avaient acheté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis aussi posé la question de Léon, de Luc Besson, hein, qui correspond à ces mêmes années où on était allé chercher Luc Besson pour faire un bon gros film d'action new-yorkais, et c'était des bonnes années pour ça aussi. C'est-à-dire, on était encore dans du Hollywood qui, je pense, laissait la main un petit peu plus qu'aujourd'hui, peut-être.
Au réalisateur, auteur, ouais. C'est vrai que bon, tout ça, c'est des trucs qu'on n'a pas mis dans les tops, mais c'est vrai qu'il faut penser au cinquième élément. Le cinquième élément, c'est sorti en été, c'est quand même un blockbuster, pour le coup, un peu français, quoi. avec encore Bruce Willis. Mais bon, là, je vois parce que j'ai imprimé les blockbusters de l'été, et ensuite j'ai mis mes numéros, et il y a tellement de trucs qui sont vraiment iconiques dans le cinéma en général. On n'a même pas parlé de Jurassic Park, de Ghostbusters, de Men in Black, de choses comme ça qui ont été ultra...
Il y avait Mad Max Fury Road aussi, tu sais, qui est sorti en mai.
Gladiator.
Qui là vraiment, tu peux te... qui une espèce de golden shower de kérosène, franchement, qui te brûle de haut en bas. Donc il y avait vraiment pas mal d'autres petits films à citer. Bon, c'était cool, on va clôturer du coup ce top 10. Yes. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez ce que vous pouvez vous faire cet été au cinéma ou pas. Ah oui, parce que ça, c'est un truc que j'avais oublié de dire, c'est que pourquoi Volte-Face est mon numéro 1, parce que j'étais allé le revoir au Tivoli à Albi, il l'avait ressorti au cinéma en 5 points,
non,
en fait.
Trop bien.
Et donc du coup, c'était l'époque où vraiment on te vendait le 5 points, tu sais, c'était ouais, on va faire une projection privée de Volte-Face en 5 points, et c'était dément, quoi. Franchement, c'était trop bien. Donc voilà, matez-vous ces petits films entre potes, en soirée, régalez-vous bien entre deux sessions de plage. Voilà, on vous a tout dit. Et puis
envoyez-nous des trucs si on a oublié des choses ultra importantes.
Vos top 10, évidemment.
Okay.
On va finir très rapidement en 2-2 sur une micro-session film en vrac, puisque le dernier mini-blockbuster français que j'ai vu, qui n'était pas très bien réussi, c'est Nicky Larson de la bande à Fifi. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Non.
C'est pas ouf parce qu'en fait, il essaie de... La promesse, c'est que tu regardais le manga Nicky Larson ou pas ?
Oui, un petit peu, ouais.
Alors du coup, il reprend. La promesse était de reprendre l'essence du personnage de Nicky Larson, à savoir un peu les enquêtes et puis gros obsédé sexuel, quoi. avec le gimmick du manga, tu sais, c'est-à-dire les gros yeux qui s'ouvrent, ce qu'on va retrouver sur une planche de manga. Et à l'arrivée, c'est pas ouf parce que il va pas assez loin dans vouloir esthétiser ce truc de manga à l'écran. Donc ça donne juste des personnages qui font des trucs d'acting un peu bizarres. C'est pas super drôle, c'est pas super ouf. Donc voilà, petite déception.
Ouais.
J'ai aussi vu rapidement, parce que c'était dans Cinématiseur en critique, tu sais, ce film avec j'ai oublié son nom, Zac Efron, qui s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, l'espèce de film, le film sur Ted Bundy qui est sur Netflix en ce moment, qui est pas mal, puisque la promesse là, c'est de raconter l'histoire du point de vue d'une de ses compagnes. Qui allait le voir en prison, etc. Et donc, du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est de te mettre du point de vue de la femme pour essayer de mettre en doute, toi aussi, la culpabilité de Ted Bundy.
D'accord.
C'est pas mal, sauf que qu'est-ce qui va pas, c'est qu'ils vont pas à fond dans ce parti pris, parce qu'au milieu du film, en fait, t'as le procès, si tu veux, qui lui est ultra objectif avec les preuves, avec le procureur qui est joué par le mec de Big Bang Theory, d'ailleurs, que c'est pas mal du tout. Et du coup, ça marche pas parce que, en fait, on te dit objectivement, voilà les preuves, ok ? Et à l'arrivée, on te dit, oui, mais comment tu veux que je mette ça en doute, quoi ? Ouais. Enfin,
Donc ça s'assume pas totalement, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils auraient pu essayer de faire une vision plus justement... de doute de ce procès-là, en fait.
C'est ça. Et après, il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est moi, je savais pas du tout que Ted Bundy était un beau gosse, en fait. Et du coup, en fait, de prendre Zac Efron, c'est totalement pertinent parce qu'il joue vachement sur ce truc de, tu sais, Ted Bundy, quand il était à ses procès, il avait carrément des groupies, en fait, derrière qui voulaient le sauter dans les toilettes et tout. Enfin, c'était vraiment... il a vachement joué sur ça, tu sais, sur le côté de la séduction, pour arriver à faire croire avec sa tête de beau gosse, mais non, j'ai pas fait ça, quoi. Et c'est assez hallucinant parce que tu vois des images d'archives aussi du juge qui est joué par John Malkovich, des vraies images d'archives du vrai procès de Ted Bundy où clairement le juge, il est d'une espèce de paternalisme avec Ted Bundy, alors quand même, il est quand même tué, genre, je sais pas combien de dizaines de meufs, quoi. Et il lui dit, bah voilà, t'es un bon gars et tout, mais je suis désolé que tu aies pris ce chemin-là, en fait, tu vois. Et je trouve ça assez fort, en fait, parce que c'est assez étrange comme duel, quoi. Le juge qui dit, bah voilà, bah c'est con, quoi, parce que t'aurais pu faire ce que tu voulais, t'avais du talent, en fait. On reconnaît que même si le gars était un psychopathe, c'était quelqu'un de talentueux, mais qui a choisi cette voie-là. Donc voilà, petit film Netflix à regarder, faites-vous-en une idée, c'est assez sympa. Voilà.
Ok. Bah, parfait. Moi, j'ai juste en profité pour dire que j'ai totalement binge-watché la saison 3 de Stranger Things. Je choisis cet épisode de Blockbuster d'été parce que c'est en fait, je pense que c'est la version streaming série du Blockbuster, en fait, et de Netflix, dans le sens où ils font un point d'honneur à les sortir en été, justement, à chaque fois, les saisons de cette série. Il y a pas mal de budget. Pour le coup, j'ai préféré cette saison-là à la saison 2, qui pour moi, la saison 2, c'était juste une redite de la saison 1, mais du coup en moins bien, moins d'effets de surprise. La saison 3, de nouveaux clins d'œil à tous ces films dont on vient de parler d'ailleurs, que ce soit Terminator, Retour vers le futur, voilà, tous les films qui étaient sortis dans les années 80, qui étaient plutôt bien utilisés. Et puis surtout, on nous fait avancer un petit peu sur la vie des personnages. Il y a des choses qui changent, on n'a pas peur de faire changer les choses, on n'a pas peur d'être violent parfois sur certains personnages, etc. Donc c'est... un très bon moment de série fun à regarder. Voilà.
Est-ce que moi j'ai pas vu la. Alors moi du coup j'avais été extrêmement déçu. Donc en fait la saison 2, je crois que je l'ai regardée qu'à moitié. Est-ce que tu crois que je peux direct balancer la 3 sans regarder la deuxième moitié de la saison 2?
Franchement, oui.
Ouais.
Tu vas tirer les pointillés. Voilà.
Parce que c'est vrai que la bande-annonce, la production, elle est assez ouf quand même. Hein. Les décors et tout, c'est clairement stratosphérique. Quoi. Là, les années 80 et tout, ça a l'air
vraiment
cool.
Là, on parlait de records la dernière fois dans l'épisode avec Murder Mystery. Et là, donc, ils viennent encore de péter des records en termes d'audience pour et grâce à Stranger Things saison 3, en l'occurrence. Et effectivement, là, ils lésinent pas du tout. Ils dépensent sans compter sur cette série, parce que vraiment, ils savent que ça leur apporte beaucoup. Voilà.
Ok, super.
Eh bien, profitez bien de l'été.
Ben ouais, profitez bien, mettez-vous de la crème solaire, surtout, c'est important.
C'est important, protégez-vous, hydratez-vous aussi. Et gros bisous à tous.
Allez, salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.